Un des éléments aussi sur le ton qui est très important, c'est le réalisme magique du film après cette résistance. Donc Jérémy a vécu en Colombie et moi au Pérou, dit Fanny Liattard. Le réalisme magique qui imprègne l'Amérique du Sud nous a complètement parlé et continue de nous inspirer. Toute notre mise en scène est rythmée par cet équilibre entre réalisme et onirisme. Alors, du coup, ce qui m'intéresse ici, c'est d'une part, alors vous voyez, je vous ai mis plusieurs images qui montrent la place du rêve dans le film. Alors, d'une part, il y a ce chien mystérieux, Laïka, donc, le nom est évidemment très important, premier animal à être allé dans l'espace, premier être vivant à être allé dans l'espace, ce chien qui apparaît au personnage de Yuri. Et ce qui est intéressant, bah, alors on se dit, bon, on est dans son imaginaire, c'est un point de vue du personnage, tout va bien. Mais ce qui est intéressant, vous avez peut-être remarqué à la fin, quand Diana entre dans le bâtiment, elle voit le chien qui semble lui donner la direction. Donc c'est comme si le rêve de Yuri était partagé, devenait réel. Et là, on entre pleinement dans le réalisme magique, finalement. On n'est pas seulement dans quelque chose qui serait un peu pas très dynamique et un peu bêta, de bon, bah, on est dans le regard de Yuri, il rêve, on voit sa vision, mais ce rêve contamine les autres et devient peut-être la réalité. Donc ça, on est vraiment pleinement dans le réalisme magique. Et dans les scènes, c'est annoncé et préparé en particulier dans la scène des étoiles, qui est très poétique, mais en même temps, elle est réaliste. C'est-à-dire, il a pu prendre une toile, la percer et faire la carte des étoiles. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est réaliste. Mais ça donne à ce moment-là un moment un peu magique, et on se dit que c'est un peu le moment aussi où peut-être elle tombe amoureuse de lui, enfin en tout cas où elle se dit qu'elle va le suivre dans cette aventure imaginaire. En tout cas, elle l'admire à ce moment-là. Il y a les moments aussi où le paysage est filmé. Le paysage, ça peut être par exemple ici le ciel, dans l'image que je vous ai montrée ici, que je vous montre ici, mais il y a beaucoup de moments où les immeubles sont filmés aussi de façon un peu magique, ne serait-ce que le début du film que je vous ai montré tout à l'heure. Dans le premier extrait, les angles de vue sur le bâtiment le font ressembler à une navette spatiale ou à quelque chose d'autre, en tout cas, qu'un bâtiment d'Ivry-sur-Seine. Donc il y a quelque chose ici en décalage, finalement, dans l'espace. Et le point de vue d'Yuri aussi, Yuri est montré à la fin, avec cette surimpression entre le bâtiment et les visages, ce qui fait qu'on ne sait plus qui est le fantôme. Est-ce que ce sont les bâtiments ou les personnages, les fantômes, qui est vivant, qui est mort? Enfin, après, on peut rêver au film, voilà, comme on veut. Et donc, le travail sur cet imaginaire est en particulier très visible autour de l'image. Alors, aussi sur le son, je vais venir tout de suite. Mais qu'est-ce qui fait que l'image est très travaillée et crée un décalage? Alors, encore une fois, c'est le paradoxe du film d'être commencé par des images documentaires, de raconter une vraie cité avec des figurants qui sont de la vraie cité, avec des événements, disons, vécus, et puis de l'autre côté, aller complètement vers l'imaginaire. Donc, en particulier, donc, il y a l'idée du scope. Le scope, vous savez ce que c'est? C'est un format d'image qui est plus allongé, qui était le format, par exemple, du western, et qui est un peu contre-intuitif quand on veut filmer un bâtiment, parce que le bâtiment, de fait, est dans l'autre sens. Donc, on aurait plutôt intérêt à aller plus vers le format carré pour filmer dans la longueur. Et donc, le fait de filmer comme ça nous met en scope, nous met finalement à hauteur des étages. C'est comme si on était parfait pour filmer un étage. Donc, c'est un élément intéressant qui va permettre de reconstruire la vision du bâtiment. Parce que finalement, pour voir le bâtiment dans son ensemble, il faut faire un plan très, 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 très large. Voilà. Le décor, évidemment, est travaillé et retravaillé par le personnage de Yuri. Donc ça, c'est un élément qui va permettre de passer du côté du fantasme. La caméra aussi, la façon dont c'est filmé, très concrètement, à certains moments, la façon dont elle bouge semble comme si elle était lâchée dans un vaisseau spatial et qu'il n'y avait pas d'apesanteur. Donc elle flotte en quelque sorte. Parfois d'ailleurs, elle bouge, c'est ce qu'on va voir, de façon beaucoup plus raisonnée. Donc là, à ce moment-là, je dirais qu'elle est en orbite, d'une certaine manière. Enfin, il y a des filtres. Beaucoup de filtres là que vous voyez qui sont des filtres bleus ou rouges en particulier, et qui sont souvent d'ailleurs des filtres qui ne sont pas forcément posés en post-production, c'est-à-dire au moment du montage des effets spéciaux, mais qui sont des filtres posés par Yuri lui-même. Ça fait partie du décor finalement. Lui-même met ce filtre rouge, on le voit bien ici à gauche, ce qui va amener après des images rouges. Les couleurs donc sont très voyantes dans le film. Et enfin, il y a des images de nature différente qui permettent un peu de déréaliser. Alors, nature différente, je pense par exemple, alors on a les archives du début en noir et blanc, mais après on a d'autres archives qui sont en couleur et qui apparaissent un peu comme des rêveries parfois, des images du passé, ou c'est des images un peu super 8, un peu rayées, ou des choses comme ça. Donc il y a tout cet aspect-là de comment une image peut être rayée, mise en parallèle avec une image qui est très moderne. C'est un cinéma filmé avec une caméra numérique très perfectionnée. Donc vous voyez que toutes les images, voilà, sont très, il y a un côté très léché. Et le fait de mettre ces images très léchées avec des images abîmées, rayées, travaille comme une sorte de déréalisation. Mais ce qui fait que peut-être on ne sait plus lesquelles sont réelles. Est-ce que c'est les images du passé, celles d'aujourd'hui? Il y a une part, voilà, de fantasmatique intéressante. Un dernier petit extrait de Gagarine, justement très court, pour vous montrer comment c'est filmé. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, comme vous l'avez vu, je vais parler au fur et à mesure. Vous voyez que c'est intéressant parce que l'extrait commence par les étoiles. Donc, on nous dit déjà quelque chose sur la place de la caméra, et vous allez voir qu'elle va faire comme un cycle, quelque chose de l'éclipse peut-être. Et regardez, c'est intéressant, chaque mouvement va aider en quelque sorte le mouvement de caméra. Donc c'est le volet qui ici, qui passe de droite à gauche.
From the point he gazed from, the choice was made, but walk the cave or the shore, the oily cave seemed to breathe on him from gravestone jaws.
Et vous voyez qu'on tourne autour. On tourne autour, bah là en l'occurrence de Youri, il était en haut, maintenant il est en bas, donc on a fait le tour de Youri et d'Oussam d'ailleurs.
His little hand
À
pressed.
chaque fois, il y a un geste qui est lié à la cité, à la reconstruction de la cité, hein, repeindre, enlever le volet
In
cassé.
anguish as he weighed up his coin. Somewhere on the right girl in the world is to.
Et ce n'est pas inintéressant, les personnages, vous avez vu, le mouvement va à l'encontre du monde caméra. Donc ça aussi, c'est assez contre-intuitif, parce que normalement, quand on fait un monde caméra, on essaie de suivre le mouvement logique des personnages. Ici, le volet va dans l'autre sens. Le personnage de Dali, il entre par la droite, alors que la caméra fait gauche-droite. Alors vous voyez, c'est le moment où la caméra s'arrête, c'est le moment où c'est la lumière qui tourne. Donc c'est intéressant, c'est la lumière qui tourne, va remplacer le mouvement de caméra ici. Puis le mouvement de caméra l'a aidé par les femmes qui dansent ou qui font leur combat. Et alors dans ces moments justement, bon, alors que j'appellerais un peu, c'est comme des clips finalement, c'est le moment où il y a une musique qui permet d'unifier des images et montrer un passage de temps. Dans ces moments de clip, ils sont souvent liés à une chanson et une danse. Donc il y a le passage de Dali qui tourne, qui fait le derviche tourneur hein, dans une scène aussi qui est symétrique de celle-ci. Et la caméra à ce moment-là a sa propre liberté en quelque sorte. C'est plus des mouvements l'horizontale, la verticale très simple, mais c'est des mouvements où elle tourne autour du personnage de Youri souvent, et puis elle tourne sur elle-même pour se détacher des règles de l'espace de la pesanteur. Alors, vous voyez aussi que dans cet extrait, finalement, le personnage de Dali prend une place particulière parce que c'est vraiment lui qui est là au début, qui est là au début et qui vire les autres. Et à la fin, il vire encore les autres, mais cette fois, c'est des enfants. Donc il y a vraiment voilà, cette idée très simple, finalement, d'une sorte de cycle complet du personnage. Des personnages les uns sur les autres, et qui permet déjà d'ailleurs de lier comme une sorte de double inversé, peut-être d'étoiles parallèles de l'autre côté de la planète, Dali et Youri, ce qui prendra une résonance tragique au moment où Dali, le moment où ils seront seuls face à face, va lui dire bah moi parfois, enfin moi j'aimerais, je vais me jeter du roof, quoi, je vais me jeter du toit, c'est ce qu'il lui dit. Or à la fin du film, Youri est quand même sur le toit. Alors même s'il ne s'en jette pas, c'est une sorte de suicide symbolique. Donc il y a vraiment cet aspect de, voilà, les deux étoiles symétriques, Youri et Dali, qui s'est déjà présent dans cette scène, avec le personnage qui est un peu, voilà, carrément toxique de Dali, et le personnage de Youri, ça se termine pareil, d'ailleurs ça rime, qui lui, au contraire, est le personnage qui va être dans le don. Alors, je vous ai dit, voilà, pour l'image, maintenant pour le son, en comment le son est travaillé. Donc, il y a plusieurs scènes où Youri, comme vous voyez là dans les images que je vous ai mises, écoute, et Fanny Guattard dit, la musique aussi va dans ce sens. Elle garde cette idée de jouer avec les sons du réel comme s'ils étaient des notes, et de jouer avec les notes comme si elles étaient des sons du réel. Les frères Kalperine et Amin Bouafa, donc ce sont les musiciens du film, ont notamment utilisé des vieux instruments électroniques comme la thérémine, qui donne l'impression des voix de voix féminines un peu lointaines pour incarner des traces des vies disparues. Alors, je vous ai mis une thérémine, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble en haut à droite. Et c'est un instrument qui a été assez vite utilisé au cinéma pour créer des effets d'étrangeté. Et en particulier, il y a une bande musicale, même qui est l'Oscar de la bande musicale de cette année-là, qui est un film d'Hitchcock avec Ingrid Bergman, qui s'appelle La maison du docteur Edwards en français, et qui est un film sur la psychanalyse. Donc finalement, la thérémine va exprimer ce qui est caché, l'inconscient caché des personnages, les secrets des personnages. Ici, c'est une utilisation assez différente, voilà, sur un instrument, une étrangeté qui va, encore une fois, déréaliser ce décor, cette cité qu'on voit la plupart du temps dans des films réalistes sociaux, des films politiques parfois, mais en tout cas, qui n'est pas lié à la poésie, à l'imaginaire. Et au contraire, donc, comme vous voyez, l'image comme le son vont amener de l'imaginaire, vont amener de la poésie à Gagarine, la cité. Alors, je vais vous montrer deux exemples autour de la science-fiction et comment le film a pu travailler ses références, en sachant que les deux réalisateurs et réalisatrices ont, au début du tournage, ont choisi de montrer aux habitants qui allaient participer au film des films de science-fiction. Donc pour eux, c'était un vrai enjeu qu'il y ait un socle commun, des films communs, qu'on puisse parler de science-fiction dans un film qui se noue sur le réel des habitants. Donc c'est un élément intéressant. Donc je vous ai mis là plusieurs images du film qui font directement écho à la science-fiction. Donc bon, dès le début, l'ascenseur, la façon dont il est filmé, il n'est pas filmé comme un ascenseur réaliste, il est filmé comme une machine étrange. Il y a évidemment les scènes du côté de l'imaginaire avec Yuri à gauche ici ou en haut à droite qui est en apesanteur. Il y a évidemment le décor de Yuri, celui qui se construit, et il y a ces images avec le chien et il y a même le pas de Yuri sur le toit enneigé qui est comme le premier pas sur la Lune. Ce sont les mêmes images. Ça, la référence est très claire, je pense que vous l'avez tous vu. Et puis il y a presque, on pourrait dire, le monolithe du film où là on est carrément chez Kubrick, hein, avec le bâtiment qui va former ce T qui est dans l'espace. Alors on va commencer par un extrait d'Alien, le tout début d'Alien, pour voir justement le rapport à l'espace, au décor. Bon, alors vous voyez que le décor est vraiment pensé comme animal, c'est-à-dire que là c'est la chrysalide, il y a des bruits comme des bruits de ventre ou de bête ou quelque chose comme ça, et Ridley Scott a vraiment tenu à ce que le vaisseau d'Alien soit une forme vivante qui tienne à la fois du navire mais avec quelque chose de très métallique et en même temps avec ça suinte de partout. C'est abîmé et donc il a vraiment travaillé sur ce mélange entre mécanique et vivant qui va être d'ailleurs le mélange d'Alien puisqu'Alien est à la fois un animal et à la fois quelque chose de technologique avec des griffes qui semblent métalliques, etc. Donc c'est intéressant parce que finalement, est-ce qu'on peut se demander peut-être que dans Gagarine, l'univers imaginaire, alors il n'est pas du tout du côté du film d'horreur, celui de Yuri, mais quand il crée sa propre base spatiale, son petit vaisseau, il y a quelque chose autour du mélange entre la technologie et la nature, le retour aux fleurs, aux tomates du Québec ou je ne sais quoi, qui est intéressant, qui est paradoxal, quoi. C'est un monde ultra technologique avec des fils, des lumières, des choses comme ça, pour finalement donner naissance à des petites tomates cerises ou à des fleurs. Donc c'est intéressant. Alors il y a aussi l'élément ici de la musique, des bruits, des sons qui les réalisent, et dans le film ça va être vraiment très très exploité, parce que si vous l'avez vu, vous savez que Alien n'apparaît pas avant une heure de film. Donc pendant une heure de film, on a principalement tout est fait avec des sons, de l'étrangeté, etc., qui va mener à une tension qui va monter jusqu'à la deuxième partie horrifique. Et puis d'ailleurs, comme dans les films d'action globalement, c'est l'histoire de l'éclosion d'un héros, ou plutôt là d'une héroïne, et comment Ripley, Sigourney Weaver, dans cet espace qui est collectif, où on a plusieurs personnages qui sont complémentaires et qui sont filmés à égalité dans la première moitié du film, comment elle va éclore elle-même comme héroïne. Alors comme héroïne, voilà, et comme peut-être mère finalement, puisque Alien, comme souvent, je vais revenir dessus juste après, les films de science-fiction dans l'espace, sont des films qui parlent directement du monde du terrain. C'est quand même la métaphore d'Alien. Alien, il a besoin de se loger dans le ventre, presque dans l'utérus de ses hôtes. Donc il y a cette idée-là, et à la fois il y a le corps humain, et en même temps il y a le vaisseau qui est un hôte. Donc il y a cette idée-là de le corps, le vaisseau, comme deux parties symétriques, encore une fois, comme exactement Gagarine la cité, Yuri le personnage. Alors pour aller plus loin, un dernier extrait, je voulais vous montrer la fin de rencontre du troisième type, le moment de la communication avec les extraterrestres. Bon, c'est difficile de ne pas voir cette scène dans Gagarine. Une fois qu'on a vu cette scène, on y pense. Elle est au moins déclinée deux fois. Il y a la scène de l'éclipse, qui mettent tous des lumières, qui est exactement le début où on voit François Truffaut, notamment ici acteur du film de Spielberg, mettre des lumières pour peut-être l'arrivée toxique pour les yeux des extraterrestres. Et puis il y a cette idée évidemment de la scène finale, de tout le groupe réuni, des personnages qui vont se réunir pour regarder le spectacle. Et ce spectacle ne va pas être le spectacle qu'on croyait, c'est-à-dire est-ce que les extraterrestres vont nous détruire ou quelque chose comme ça, mais ça va être un spectacle de communication, un spectacle de jeu de lumière, de son et lumière, on pourrait dire ici, avec finalement l'équivalent du morse et la communication par le morse dans Gagarine, et ici la musique. On communique par la musique. Alors c'est aussi un élément intéressant parce que le morse dans le film, il sert à dire quelque chose que Yuri n'arrive pas à dire. À aucun moment dans le film, Yuri, il aide les autres, mais à aucun moment, il dit « aidez-moi ». Et à la fin, finalement, il arrive à dire « SOS », ce qui veut dire « aidez-moi ». Donc, c'est comment une communication apprise par Diana dans l'intrigue amoureuse va lui permettre de communiquer à la fin.